Amis de Radio Silence, bonsoir. Nous sommes le 22 juin, trois jours après, le 19 juin, comment on va appeler le 19 juin, la date fatidique pour le président en place qui a été élu il y avait seulement 2 semaines et dont les électeurs ont tout de suite renier en quelque sorte la victoire par un revers, puisque la majorité n'est pas atteinte. En général, un président, il est élu, on lui donne la majorité pour qu'il puisse gouverner avec celle-ci, mais là, ce n'est pas le cas. Il semblerait que les électeurs se soient trompés, qu'ils aient décidé de dire on va essayer de corriger un peu les choses. Ou plutôt qu'ils aient... Vous savez, l'élection présidentielle, c'est toujours un moment hypnotique. Un peu comme si les gens étaient drogués et qu'ils votaient un peu... C'est même pas, on dit, par réflexe, mais c'est un peu comme des automates, en fait. C'est très curieux, les gens finissent toujours par voter pour les mêmes qui les traumatise. Et d'ailleurs, c'est une question très psychologique ainsi, comme ça, ou philosophique d'ailleurs, de voir que les gens ont plus de respect pour les bourreaux que pour ceux qui essayent que pour Jésus, en fait, vous voyez, dont le joug est doux. Non, les gens, ils ont peur de l'autorité, mais vraiment une trouille panique. Et en général, ils votent ou ils s'abstiennent. Ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes, mais en même temps, ils ont peur. Ils s'abstiennent. Enfin, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils s'abstiennent. Et puis, il y a les autres qui ne sont pas d'accord, mais qui vont quand même aller revoter pour le président. Soi-disant, les autres, c'est pire parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on trouve toutes sortes de raisons et qui, pour... arriver à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire je sais très bien que ce n'est pas bon, mais j'essaye de me trouver des raisons, comme le vote utile, pour revoter pour M. Macron. C'est ça, le vote utile, c'est quelque chose de très bête, et bête et méchant, parce que je ne vois pas pourquoi il fallait le vote utile devant M. Mélenchon, par exemple. Monsieur Zemmour, c'est différent, il est nouveau en politique, ça, tout le monde connaît, et là, il a vu un peu, il réussit quelque chose de formidable en très peu de temps à constituer le plus grand parti de France en termes d'adhérents et en termes de capacité de financement pratiquement, puisque lui va rembourser ses frais, mais il... Il ne passe pas la barre pour être à la fois au second tour des présidentielles. Et puis, ça c'était quand même difficile parce que c'est la première élection. C'est vrai que Macron est venu, mais Macron, c'était pas un nouveau en politique en fait. Il était un peu comme un poisson caché, un sous-marin. Et qui est apparu, tout d'un coup. Alors que là, et puis il y avait le parti politique déjà derrière, très fort. Parti politique, non, il y avait une ossature politique qui lui permettait de passer comme ça au premier tour. Alors qu'avec M. Zemmour, c'était tout lui, quoi. Il arrivait tout nouveau, c'est tout en bloc, c'est compliqué, c'est toujours ce qu'on disait. La dissonance cognitive fait que on veut voter M. Zemmour, mais après, au final, on fait le vote utile. Le vote utile, Évidemment, il y a cet épouvantail Marine Le Pen, mais le Front National, c'est devenu, ce n'est pas Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on croit, ou le FN, le Rassemblement, je ne sais plus si c'est bleu ou bleu marine, c'est devenu le parti de la famille. Et la famille est agressée avec ce gouvernement Macron et tous les gouvernements qui ont précédé, et les familles se plaignent. Les familles se plaignent depuis, mais on ne les écoute pas. Et étant agressées, c'est vraiment Marine Le Pen qui... je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose à étudier, pourquoi c'est elle qui canalise le vote familial et le vote chrétien d'ailleurs. Le vote familial et le vote chrétien, deux valeurs qui sont battues en brèche par tous ceux qui se réclament de la modernité et qui se disent anticonservateurs. Or, le peuple, compte tenu du facteur de la dissonance cognitive, le peuple est plutôt conservateur. Il est plutôt conservateur que révolutionnaire. Et la révolution, d'ailleurs, elle n'est pas portée par les peuples, hein, dans l'histoire. La révolution est portée par les bourgeois. Vous voyez, donc une autre catégorie intermédiaire qui serait justement celle qui correspond à la France, au visage de la France insoumise. C'est eux qui font la révolution. Si pas, bon, il est vrai que on a eu ici, il fait une tempér un climat bizarre, alors tout le monde est enrhumé. Bon, moi, ça ne peut pas me louper. Et on a les gorges vraiment très enrouées qui font mal. Comment dirais-je, la catégorie intellectuelle des Lumières qui avait fait la Révolution, c'était aussi, là c'était pratiquement des nobles. Et donc le peuple après, le peuple suit, le peuple est suiveur, il est plus suiveur que guide. Que guide, il a besoin d'un guide pour pouvoir avancer, sinon par lui-même, soit il s'abstient, soit il fait le vote utile, clairement. Marine Le Pen, c'est pas un vote utile, c'est un vote des gens qui sont agressés, la famille. Si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui est pour la famille, ça veut dire vous êtes aussi contre l'avortement, vous voyez un peu, il faut avoir du culot. Hein, et vous êtes aussi chrétien, il faut avoir beaucoup de culot pour affirmer sa chrétienté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont plutôt ringardes. Et Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on dit, c'est le parti vraiment conservateur. Le parti conservateur, c'est le nom qui est trompeur, mais c'est un parti conservateur. Et on ne le dit pas assez. Et peut-être qu'aussi le FN a un passé qui ne lui permet pas de revendiquer ces valeurs-là. Mais c'est ça, comment je vais dire, son électorat profond, qui fait qu'elle ne peut que grimper, avoir le nombre de députés qu'elle a, et on s'en étonne, oui, mais 89 députés, nous, ça lui sort, lui, elle les mérite. Bon, c'est pas elle, c'est son électorat, qui est justement le reflet de tout le mépris des gouvernements contre toutes ces valeurs traditionnelles, et qui est aussi le mépris, alors ça, c'est pas pour Marine Le Pen, c'est pour le succès de la France insoumise. Un peu le sursaut, en fait, enfin, des classes dominées, des classes marginalisées, des classes, j'ai même envie de dire opprimées, brimées, tellement méprisées que, rendez compte, il y a eu la République, OK? Qui tend vers le progrès et qui tend, quand on dit progrès, vers plus d'égalité entre les êtres humains, c'est-à-dire en fait revenir sur des valeurs chrétiennes ou alors qui reposent sur des valeurs chrétiennes. Et cette égalité-là, on la voit pas. On la voit pas, au contraire, qu'est-ce qu'on a? C'est une forme de schisme social où vous avez les grands, ces pontes-là, ce que Pierre Bourdieu a appelé la noblesse d'État. Qui s'accapare vraiment, qui confisque, c'est mieux, le pouvoir, les postes, les fonctions, c'est verrouillé. Et de l'autre côté, vous avez, bon, entre les deux, on dit classe moyenne, ça, il faut voir, c'est peut-être les insoumis. Et de l'autre côté, vous aurez toute la classe qui est brimée, parce que on les considère comme une catégorie, soit c'est des ouvriers, soit c'est des employés, soit c'est des chômeurs, voilà, soit c'est des, voilà, les assistés, les gens RSA, RMI, des incapables. Ce sont des gens qui sont stigmatisés socialement et contre toute attente, c'est ça qui est incroyable. La noblesse d'État et ceux qui s'accaparent la richesse nationale, qui ne veulent même pas payer l'impôt sur les grandes fortunes, elle se dit intouchable et elle se dit ayant droit, droit divin carrément, carrément, carrément. Et de l'autre côté, ben les indigents qui sont là, à qui on confère des droits sociaux comme si c'était des faveurs, voilà, des faveurs, tout en les insultant, parce qu'on méprise la famille. Dans le RSA, il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté, par exemple. Mais ce sont d'abord des familles, ce sont d'abord des familles. Et c'est aussi la question sociale, pas seulement sociale, j'allais dire féminine, la question de la femme. La position de la femme encore aujourd'hui dans la société, les familles les plus pauvres sont les familles monoparentales où c'est la femme qui gère tout. Vous savez très bien tout cela avec des horaires de travail terribles et le gouvernement qui s'abat dessus, une femme qui a des enfants, qui a accouché, et puis bon, peut-être que congé parental, si elle veut, elle perd une partie de son salaire, et puis après, oh, il faut aller travailler, et on tape dessus, oui, les chômeuses là, professionnelles, RSA, RMI, on a perdu. Ce qu'il y a, il y avait dans l'Église, qui était quand même que c'est pas l'aumône aux pauvres dans la République, c'est pas l'aumône aux pauvres, c'est un droit social parce que c'est la richesse produite, coproduite, et tout le monde paye les impôts d'ailleurs. Oh, bon, toutes ces choses-là, mépris, 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 mépris de classe, et ils ont réagi. Alors maintenant, qu'est-ce que Monsieur Macron va faire, puisqu'ils savent tout cela, les gouvernants, mais par cynisme pur, depuis, ils continuent leur conquête, si j'ai envie de dire comme ça, et c'était bien de dire la reconquête. Ils s'en fichent, ils avancent, qu'est-ce qui peut leur arriver? Ils ne vont jamais, ils sont jamais condamnés à la justice, même lorsqu'il y a des abus évidents, et même quand ils sont condamnés, c'est des condamnations. Ah ben voilà, au bout de 10 ans, 15 ans de procès, on oublie même de quoi ils sont accusés, et ils s'en fichent. Oh, ils payent pas après, ça, on noie le poisson, c'est même plus qu'ils deviennent siphons. Ils font pas de prison, de toute façon. Le petit dealer. Dans son coin, là, il va faire la prison. C'est pas pourquoi les gouvernements, ont, les gouver enfin, la République a dérivé comme ça, sur ses berges de la misère, de la création de la misère, en même temps qu'on crée des richesses insolentes. Bon, on comprend pas très bien ce qui se passe. Bon. On va comprendre parce que quand même, maintenant, il y aura le débat puisque c'était quand même une incongruité de voir que le président de la majorité absolue, et il fait ce qu'il veut. J'ai adoré le titre du Monde qui a dit que le président Macron se trouvait maintenant dans une impasse. Et merci, mon Dieu. Et je me dis, ça c'est peut-être un témoignage pour moi. Moi, j'habitais le 15, impasse de la Fresnaye, à Villefontaine, dans les 5. Et bah, j'y suis plus, mais si le président vient me remplacer à cette adresse-là, formidable! Ce n'est que, vous savez, hein, il y a le karma, il y a le karma. Quand vous faites du mal, ça peut vous revenir d'une façon ironique. Dieu sait faire de l'ironie, sait faire de l'ironie. Alors il est dans une impasse, c'est très bien, bienvenue au club. Et que faire? Que faire? Oh, que la première ministre démissionne, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien, je sais pas, ils vont avec les équilibres qui vont se décider. Je sais pas, je rigole, c'est pas parce que je suis contente, mais c'est parce qu'il faut aussi que les autres, quand ils font du mal, que de temps en temps aussi, il y a une gifle, une claque, qui leur revienne. Bon, il est vrai que M. Macron, lui, l'avait déjà, il aurait dû se pressentir, hein, parce qu'il avait été claqué quand même avant, donc cette claque, elle annonçait quelque chose. Mais c'est prémonitoire, comme on dit, mais des choses qu'aujourd'hui qu'on trouve ringardes, moi, prémonitoire, et puis quoi encore? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il y aura maintenant une gouvernance à géométrie variable, parce que ça ne peut être que ça. Tantôt on s'appuiera sur les chrétiens et la famille, tantôt les valeurs, voilà, tantôt on s'appuiera sur les révolutionnaires, je ne sais pas, notamment au niveau du climat, tantôt on s'appuiera sur, je ne sais pas, ça c'est pour les insoumis, mais je ne sais pas s'ils sont d'accord. Encore qu'ils sont en train de partir là, chacun de son côté. Tantôt, Monsieur Bayrou, bien sûr, le centre, les Républicains, ça sera un gouvernement chaotique. On verra bien, il n'y aura pas de ligne directrice, et ça sera au coup par coup, au coup par coup. Quelque chose que la France ne connaît pas. Alors peut-être que pour sortir de l'impasse, pour une fois, on peut faire un gouvernement d'unité ou d'union nationale, je ne sais pas, mais ça, ce n'est pas dans la culture française. Mais bon, si c'est arrivé, hein, ce qu'on pressentait depuis qui n'arrivait jamais, si c'est arrivé, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut bien avoir un gouvernement où il y aurait toutes les personnalités des partis politiques, en fait tous les partis politiques représentés, puisque maintenant ce sont les partis politiques qui font l'affaire. Vous êtes affilié à un parti politique, vous pouvez être élu, même si vous êtes une dame de ménage. Voyez un peu. Donc ce n'est plus une forme de quintessence qui vous apporte là, c'est le parti. C'est le parti, et peut-être, disons, pour être gentil, on se projette dans l'avenir, et puis on s'est dit. Bah, si la personne est affiliée à un parti, c'est qu'elle adhère aux valeurs du parti. Donc cette personne et le parti, c'est la même chose. Et puis on verra, elle fera ce que le parti dira de faire. Ça efface aussi. Oh, bon, on va laisser tomber. On va laisser tomber. C'est un terrain glissant. Et je ne sais pas si aux États-Unis c'est possible. Je ne sais pas si c'était de la provocation de la part de la France insoumise, parce que là, c'est clairement cela. Alors, dire qu'elle a battu la ministre du Sport, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas si c'est. On voit aussi peut-être aussi à revers ou à rebours vers le modèle américain, où on prend comme ça une ou deux personnes en épingle. Bah, si c'est peut-être le je ne sais pas, je ne sais pas, laissons tomber. Et c'est des sujets glissants qui font aussi que parfois la réponse à l'arrogance est aussi une forme d'insulte. Peut-être pas d'insulte, mais elle est incompréhensible, incompréhensible, et elle est aussi un peu téléphonée. Voilà, c'est le mot français, elle est téléphonée, et puis ça aussi, ça peut énerver de l'autre côté les gens qui sont pour le mérite, les gens qui sont pour la famille, les gens qui sont pour la chrétienté, les gens qui sont pour le progrès. Vous voyez, c'est aussi des choix comme ça. C'est vrai qu'en politique, il faut faire des coups et qu'il faut jouer sur la visibilité, mais on fait un peu une visibilité au rabais. À chaque fois qu'on fait ces choses-là, surtout quand on joue avec les figures de l'immigration, bon, c'est dommage, elle est toujours manipulée, elle est toujours instrumentalisée. Bon, on passera là-dessus, on ne va pas bouder notre plaisir, mais c'est de tous les côtés, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Le mépris, et quand on vient répondre au mépris, on apporte quelque chose comme. Bon, voilà, vous avez compris. Les Français, on ne dit pas les choses jusqu'au bout parce que les Américains, ils claquent tout, et nous, bon, on dévie, encore que ici, un flash sur le monde, j'ai même pas annoncé, vous êtes en train d'écouter Flash sur le monde d'Élise Mbogue, Radio Silence, et je l'annonce à la fin de l'émission. Que vous dire, bah, on attend le remaniement. J'aurais pu faire cette émission après le remaniement, ce que j'attendais, mais je crois que si, je ne sais pas, ça va être une autre surprise, ça va être l'objet d'une autre émission. Pour le moment, on n'est pas content, mais presque. Amis de Radio Silence, pas content parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu là, on est content parce que on va s'amuser quoi. On sent bien que la prochaine fois, les alliances, ça va être un peu rigolo. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde, Élise Mbogue. Pour Radio Silence, je vous dis à bientôt.